Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. C'est parti pour une heure d'infos, de débats et d'opinions, puisqu'à partir de 13h, comme tous les jours, vous le savez, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mercredi 24 août. Les titres de votre journal.
Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
Emmanuel Macron donne le ton lors du premier conseil des ministres. C'est la fin de l'abondance et de l'insouciance, dit le président de la République, en parlant d'une série de crises graves allant de l'Ukraine à la sécheresse. Des mots très forts sur lesquels nous reviendrons avec notre invité, le politicien Jean Garrigue. Après 10 jours de cavale, les 2 jeunes suspectés d'avoir tué un Afghan à Colmar ont été interpellés. L'un d'entre eux se cachait dans le quartier. C'est une opération de police spectaculaire qui a permis son arrestation. À 99 centimes le litre de lait, cela ne nous permet pas de nourrir nos bêtes. Opération coup de poing il y a quelques instants dans une grande surface de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Les éleveurs laitiers demandent un prix de vente plus élevé. C'est une question de survie. Il y a 6 mois, jour pour jour, l'offensive russe en Ukraine, les premiers bombardements et une Europe sidérée. Nous nous battrons jusqu'au bout, déclare le président Zelensky. Et puis la récolte du muscadet avancée en Loire-Atlantique, les vendanges ont débuté. Nous vous les ferons vivre, évidemment, dans quelques minutes. Le cru devrait être excellent, vous l'entendrez. La météo, c'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Et le jour le plus chaud de la semaine, on y est, ça me fait bafouiller.
Exactement, avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés sur quasiment tout le pays, sauf en bord de Manche. Il fera 25 degrés à Brest cet après-midi, 30 à Rennes et Saint-Etienne, 31 à Aurillac et Besançon, 32 à Lille et à Nantes, 33 à Paris, à Strasbourg et Metz, 34 à Bordeaux et Biarritz, jusqu'à 35 à 38 degrés dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, 35 par exemple à Agen, 36 à Toulouse, 38 à Cahors, le tout sous le soleil, à peine encore quelques nuages bas pour la pointe bretonne et la pointe du Cotentin, quelques averses sur le Mercantour et la montagne Corse, et puis en soirée, attention à ces orages qui vont faire baisser les températures mais qui seront localement violents vers le Pays Basque, les Landes et le Béarn.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il mettre en place une forme de police de la sobriété énergétique? Vous dites oui à 23%, non à 69%.
RTL Midi.
Pour l'exécutif, la rentrée, c'était donc ce matin, premier conseil des ministres à l'Élysée. Emmanuel Macron a immédiatement donné le ton de cette rentrée, un ton grave, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, parce que les images de l'été sont angoissantes. Sécheresse, incendie, guerre en Ukraine. Le président a donc voulu s'adresser directement aux Français au début de ce premier conseil des ministres de rentrée.
Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété.
Un discours adressé à ses ministres, mais retransmis par ses services auprès de la presse, où le président dit qu'il faudra faire des choix pour préserver notre indépendance, notre souveraineté économique, alimentaire, des choix pour le climat aussi, car cet été marque une prise de conscience des bouleversements, même pour les plus sceptiques.
Il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le « en même temps » résolu. Nous le savons, nous aurons aussi des choix clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
À Elisabeth Borne de décliner les mesures de court et de moyen terme, avec le plan de sobriété énergétique notamment. Emmanuel Macron, lui, veut montrer aux Français qu'il est conscient des enjeux et prêt à y répondre. La question du pouvoir d'achat est aussi de plus en plus criante et le président tente donc de désamorcer un climat social qui pourrait être tendu.
Marie-Bénédicte Allaire en direct de l'Élysée pour RTL. Le gouvernement va présenter dès septembre, un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie ainsi qu'un plan pour sécuriser les approvisionnements en énergie pour l'hiver prochain. Fin de l'insouciance, de l'abondance, les termes employés sont forts. Est-ce que cela traduit une véritable prise de conscience concernant le réchauffement climatique? Marie Mollet a posé la question au député écologiste Julien Bayou.
Pour l'instant, pour moi, c'est du commentaire. On est dans le blabla. Et moins élégant ou moins intéressant que ce qu'avait pu dire Jacques Chirac il y a 20 ans déjà, sur la maison brûle et nous regardons ailleurs. L'enjeu maintenant, c'est de passer aux actes. Le gouvernement verdit son discours, il faut maintenant verdir les actes. Il faut des actes. Nous proposons un plan d'adaptation pour le pays, ça passe par la rénovation thermique. Il faut mettre des milliards d'euros sur la table pour permettre de se libérer de cette dépendance au gaz russe. Et pour financer ces travaux, il faut faire contribuer les plus riches. Et donc, c'est la surtaxation sur les profits. Voilà du concret. Voilà ce que nous attendons d'un gouvernement qui est là pour protéger la population. Le climat est une question de sécurité nationale et notre sécurité n'est plus assurée.
Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, politologue et président du comité d'histoire parlementaire. Grande bascule, fin de l'abondance, des évidences et fin de l'insouciance, ce sont des mots très forts employés par Emmanuel Macron ce matin.
Oui, il y a un ton de solennité qui rappelle un petit peu ce qu'on avait entendu au début de la crise du Covid. Une sorte de chef de guerre, et cette fois l'objectif c'est évidemment la crise climatique, le dérèglement climatique, la transition écologique. Bon, c'était annoncé dans la composition du gouvernement, il y a deux ministres dédiés à ces questionnements, mais là il y a un ton de gravité, de solennité qui est aussi une réponse en réalité à un certain nombre de polémiques, en tout cas de critiques qui ont été adressées à Emmanuel Macron depuis quelque temps sur finalement un peu le manque de cap, le manque de direction de ce nouveau quinquennat, sur la manière dont il s'est un petit peu défaussé des problèmes au moment de la campagne présidentielle et encore plus au moment de la campagne législative. Donc pour ne pas être uniquement le président gestionnaire des crises, d'ailleurs il le dit, hein, c'est très clair, il veut donner un cap, et ce cap, c'est celui de la sobriété écologique, me semble-t-il.
Et lorsque il disait vendredi, hein, c'était vendredi à peine, donc il y a 5 jours, je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité, l'adversité, accepter de payer le prix de notre liberté. Déjà, il employait des mots extrêmement forts vendredi à Bormes-les-Mimosas. Il a pris l'habitude de ce genre d'expression, Emmanuel Macron, dans les moments clé, dans les moments critiques de son quinquennat. Pourquoi maintenant, pourquoi en cette veille de rentrée?
Parce que cette veille de rentrée s'annonce explosive. Je veux dire que les problèmes qui se posent, la surinflation, la sortie du quoi qu'il en coûte, les rébellions en tout cas, ou les révoltes sociales qui se profilent, tout ça risque de faire problème. Comment les Français vont-ils vivre cette sobriété énergétique qui semble nécessaire avec la crise d'Ukraine? Donc il y a véritablement un avenir quand même très très compliqué pour le gouvernement. C'est un peu comme si Emmanuel Macron anticipait justement toutes ces difficultés et, je le répète, se posait en chef de guerre. C'est finalement d'ailleurs une attitude, une posture qui lui a plutôt bien réussi dans le passé, mais le problème c'est la façon dont les Français vont percevoir ce comportement, et puis la manière dont il sera jugé sur pièce, notamment sur la politique de transition écologique qui quand même aujourd'hui qui devient un axe majeur pour lui.
Il va désormais falloir s'habituer, Jean Garrigue, à vivre dans un état de crise omniprésent finalement.
Oui, mais le paradoxe, c'est qu'au fond, cet état de crise, on le connaît quasiment depuis le début du quinquennat Macron. Jamais un président n'a eu à gérer autant de crises, crise des gilets jaunes, crise du Covid, crise de l'Ukraine, et aujourd'hui crise économique et sociale due justement à tous ces éléments. Donc finalement, il ne veut pas être un président de crise, il le dit, il l'affirme, mais en réalité, de facto, il est dans une situation de crise, et c'est toute la difficulté dans ce deuxième quinquennat.
Merci beaucoup Jean Garrigue d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes historien, politologue et président du comité d'histoire parlementaire. Comment effectuer cette bascule dont Emmanuel Macron parle, surtout concernant la sobriété énergétique? Eh bien, pourquoi pas, par des sanctions, le président de la commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, était l'invité de RTL Matin.
Moi, j'y suis à titre personnel tout à fait favorable. Nous avons tous vu les conséquences du dérèglement climatique cet été. Et je pense que tout le monde l'a touché du doigt, que ce soit pour les agriculteurs, pour les feux de forêt, pour la sécheresse, pour les vagues de chaleur en ville, etc. On l'a tous vécu. Et donc, on doit changer. On a pris des lois. Et donc, oui, s'il faut passer par une phase où, pour changer les comportements, il faut qu'il y ait une forme de police pour aller verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de l'intérêt collectif, eh bien, il faudra en passer par là.
Pascal Canfin qui répondait aux questions d'Amandine Bégaud sur RTL. Je vous rappelle donc que le gouvernement va présenter dès septembre un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie ainsi qu'un plan pour sécuriser les approvisionnements en énergie.
RTL Midi.
Action coup de poing en ce moment même dans un hypermarché Leclerc de Saint-Amand-les-Eaux. Les éleveurs laitiers du Nord dénoncent le prix de vente de leur production. Ils ne s'en sortent pas. Ce sont surtout les briques vendues moins d'un euro qui sont visées. 99 centimes d'euros le litre, ce prix ne permet pas de nourrir nos bêtes. Voilà les autocollants qu'on peut lire actuellement dans les rayons de cet hypermarché. Et nous sommes en direct avec Étienne Pruvot. Bonjour Étienne Pruvot.
Oui, bonjour.
Vous êtes éleveur laitier à Saint-Amand-les-Eaux, responsable local de la section laitière. On le disait, le prix du lait dans les grandes surfaces n'est pas suffisant pour que vous soyez correctement rémunéré ?
Non, ben, en ce moment, il y a une revendication de la part nationale pour qu'on puisse vendre le lait au-dessus de 99 centimes. Et il y a un peu des genres de provocations qui sont faites par les magasins pour en ce moment. Donc on a été leur dire qu'on n'était pas d'accord avec leurs actions et qu'ils mettaient en péril la filière en continuant à vendre du lait en dessous du prix de revient et que tout le monde puisse vivre dignement de son travail.
Sachant que la période de sécheresse n'a pas arrangé les choses pour vous.
Oui, la sécheresse implique d'autres coûts supplémentaires pour nourrir les animaux. Donc c'est encore une charge supplémentaire qui arrive. Donc il faut que tout le monde prenne conscience de cet état. Et je pense que les consommateurs sont prêts à nous appuyer.
À vous suivre là-dessus, oui.
Il faut que les grandes surfaces, elles en prennent conscience. Parce que si on veut encore avoir une filière laitière dynamique dans l'avenir, il faut qu'ils arrêtent de presser le citron.
Ça veut dire quoi, la juste rémunération? Vous leur demandez à ces consommateurs de n'acheter qu'à partir de quel prix?
Ben en fait, on ne veut pas que les consommateurs payent. Il faut qu'ils payent un prix raisonnable.
Et c'est quoi ce prix raisonnable?
On a mis 99 centimes pour que tous les maillons de la filière puissent vivre dignement de ce métier d'éleveur qui est compliqué à gérer. Et si on n'octroie pas toutes ces hausses, c'est la filière de demain qui est en péril.
Justement, demain, je crois que vos enfants vont prendre la relève. Vous êtes inquiet pour eux?
Oui, bien sûr, je suis inquiet. Parce que ben, c'est un métier où il faut se donner beaucoup, beaucoup de temps. Et il faut qu'ils puissent en vivre. Et pour ça, il faut que ça passe par une rémunération pour qu'ils puissent vivre avec intérêt de leur métier.
Merci beaucoup Étienne Pruvot. Je rappelle que vous êtes éleveur laitier à Saint-Amand-les-Eaux, responsable local de la section laitière. Merci à vous, merci à Franck Hanson également qui a permis cette liaison. En garde à vue, après une cavale de 10 jours, les deux jeunes suspectés d'avoir tué un Afghan à Colmar parce qu'il leur demandait de faire moins de bruit en scooter, eh bien ces deux jeunes ont été interpellés, ça y est, l'un à Sarcelles, l'autre dans le quartier où s'est déroulé le drame lors d'une opération de police, il faut le dire, assez spectaculaire, hein, Yannick Collant.
Oui, une vaste opération policière dans cet immeuble de 15 étages. Elle a duré 6 heures. C'est la BRI et le RAID qui investissent les lieux hier en fin d'après-midi. Ils sont lourdement armés. Ils sont persuadés de trouver le deuxième suspect sur place. Sa famille habite dans cet immeuble. 5 portes d'appartement sont défoncées dans les caves également. Toutes les portes ce matin sont pliées en deux. Dans cette opération, les policiers mettent la main sur 2 individus qui ont prêté main forte au suspect recherché. Mais la cible prioritaire a finalement réussi à s'échapper juste avant avant l'arrivée des policiers. Ils se cachent en fait dans un autre immeuble du quartier et ce sont les chiens policiers qui vont permettre de retrouver sa trace. Arrestation dans la nuit de ce jeune de 18 ans, suspecté donc d'avoir fourni l'arme du crime au tireur. Et c'est évidemment un choc ici pour les voisins et les proches comme Priscilla qui connaissait bien le suspect.
Oui, je le connaissais. Il était gentil hein, quand il était petit. Hein. Mm-hmm. Et c'est devenu un garçon qui avait des problèmes. Je connais sa grande sœur, elle était dans ma classe. Et ses petites sœurs, je m'en occupais quand elles étaient petites. C'est des personnes normales qui sont extrêmement gentilles. C'est un peu dur pour leur famille, quoi.
Alors, quel est le profil des deux principaux suspects, Yannick ?
Alors, le tireur, hein, celui qui a été arrêté à Sarcelles, est un mineur de 17 ans, déjà condamné plusieurs fois, connu notamment pour trafic de stupéfiants, destruction de biens. Le deuxième suspect, celui qui a fourni l'arme et qui est âgé donc de 18 ans, il est également connu des services de police, notamment pour recel, destruction de biens, trafic de stupéfiants. Il était d'ailleurs sous le coup d'un mandat de recherche. Il avait été condamné à de la prison par contumace. Et les deux autres personnes interpellées dans la nuit ici à Colmar, pendant cette opération spectaculaire, sont apparemment des complices qui étaient soit présents lors de l'assassinat, soit qui ont aidé les suspects dans leur cavale.
Yannick Holland, direct de Colmar pour RTL. Cédric Jubilard sera de nouveau entendu par les juges d'instruction le 23 septembre après le retour de nombreuses expertises. Le corps de l'infirmière de Cagnac-les-Mines n'a jamais été retrouvé. Elle s'était volatilisée en décembre 2020. Son mari, principal suspect, lui, est toujours en détention. Air France se fait taper sur les doigts, se fait même sermonner hein, par le BEA, l'autorité française chargée d'enquêter hein, sur les accidents d'avion. Dans un rapport très sévère, Arnaud Touche, elle reproche à la compagnie française de ne pas appliquer à la lettre les procédures de sécurité.
Oui, et le BEA s'appuie sur un incident survenu le 31 décembre 2020 lors d'un vol entre Brazzaville au Congo et Paris. Alors que l'Airbus A330 est en vol, une fuite de carburant est détectée. La procédure de sécurité indique que le moteur doit être coupé du côté de la fuite, mais les pilotes ne le font pas. Cette décision a ainsi créé un risque important d'incendie et a entraîné une diminution importante de la marge de sécurité du vol, l'incendie ayant été évité par chance, explique le BEA. Mais l'organisme va plus loin et cite d'autres incidents ces dernières années où les pilotes n'ont pas respecté les règles. Du coup, le BEA sermonne la compagnie tricolore et indique noir sur blanc qu'elle devrait remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise. Alors, contacté ce matin, Air France explique que les recommandations du BEA seront mises en œuvre. Par exemple, un nouveau protocole va permettre aux pilotes de rejouer et d'analyser leur vol. De plus, un audit sera engagé au sein de l'ensemble de la compagnie dans les prochaines semaines.
Précision signée Arnaud Touche pour RTL. Dans un instant, 24 février, 24 août 2022. Cela fait 6 mois, jour pour jour, que la guerre a débuté en Ukraine. La résistance n'a pas faibli.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 48 sur RTL. Il y a 6 mois, jour pour jour, le 24 février, la Russie débutait son offensive en Ukraine. Cette date anniversaire coïncide aujourd'hui avec l'indépendance ukrainienne, l'occasion pour le président Volodymyr Zelensky de réaffirmer sa volonté.
Nous nous battrons pour notre terre jusqu'au bout. Nous tenons bon depuis 6 mois. C'est dur, mais nous serrons les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque jour qui passe est une bonne raison de ne pas abandonner. Nous ne lèverons la main qu'une seule fois pour célébrer notre victoire. Pour nous, l'Ukraine, c'est toute l'Ukraine, les 25 régions, sans aucune concession ni compromis. Nous ne connaissons pas ces mots. Le Donbass, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine. Et nous allons les récupérer, quelle que soit la manière.
Це Україна, і ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був.
Volodymyr Zelensky qui craint plus que jamais aujourd'hui hein, les provocations russes alors que célébrer l'indépendance ukrainienne, le jour de l'indépendance ukrainienne. Mmh. Bonjour Julien Foutra.
Bonjour.
6 mois après le début de l'offensive russe, la guerre est partie pour durer, on peut le dire.
Oui, puisque les positions sont figées, une guerre de position avec des tranchées. Ce qui pourra faire évoluer la situation, c'est pour la Russie sa capacité à recruter de nouveaux soldats pour mener de nouvelles grandes offensives, car aujourd'hui la Russie n'avance presque plus après avoir conquis 20% du territoire ukrainien. Pour l'armée ukrainienne, ce sont les livraisons d'armes occidentales qui pourront faire pencher le rapport de force. Les États-Unis promettent une nouvelle aide de 3 milliards de dollars. Mais l'Ukraine sait-elle mener de grandes offensives? Elle s'est défendue, oui, hein, efficacement, même on l'a constaté autour de Kiev ou à Kharkiv. Mais elle n'a pas encore récupéré du territoire et ça va être un enjeu des prochaines semaines, des prochains mois. Autre élément, le climat, le froid, l'hiver compliquent toute la logistique puisqu'il faut tout bêtement davantage de matériel, mais un pour chauffer, s'habiller, franchir des routes, des manœuvres militaires plus complexes. Enfin, le moral, les forces morales, disent les militaires. La pluie, un hiver dans la boue, des tranchées, ce sera la capacité des soldats à résister et leur volonté qui sera déterminante.
Merci Julien. Julien Fautra du service étranger de RTL. Euthanasié avant d'être jugé. Hier, en Espagne, un agent de sécurité paraplégique a bénéficié du droit de mourir dans la dignité. Il était paralysé depuis une fusillade en décembre dernier. Fusillade dans laquelle il avait tiré sur plusieurs de ses collègues. Les victimes, elles, n'auront pas droit à un procès. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL à Madrid. Comment un tel scénario est-il possible ?
L'euthanasie est un droit désormais fondamental en Espagne, ce qui explique pourquoi le détenu roumain Marie-Eugène a pu mettre fin à ses jours. La loi espagnole sur l'euthanasie, qui est entrée en vigueur l'an dernier, n'a pas prévu ce cas étonnant où un prisonnier faisant l'objet d'accusations criminelles peut bénéficier de l'assistance à mourir avant même la tenue de son procès. Ancien agent de sécurité, Marie-Eugène a défrayé la chronique en blessant trois de ses collègues d'une entreprise de sécurité de Tarragone. Un policier a alors tiré sur lui, le laissant paraplégique. Réclamant un procès, ses victimes, elles, s'étaient opposées à la mort de l'agresseur et avaient fait appel auprès des tribunaux espagnols, ce qui a retardé l'échéance et même devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais en vain. Celui que la presse a surnommé le tireur de Tarragone est mort à l'hôpital, provoquant un débat dans le droit espagnol où le droit à la justice s'oppose au droit de mourir dignement.
Diane Cambon, la correspondante de RTL en Espagne. La sécurité alimentaire de la Chine en péril à cause de la sécheresse, là aussi. Les autorités craignent une perte de 20% des récoltes, notamment de riz et de soja. Midi 52, il est extrêmement rare que les vendanges débutent déjà dans le Muscadet. Pourtant, pour la deuxième fois depuis 1986, les sécateurs sont dégainés de façon précoce. Pierre-Baptiste Vanzini, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Depuis ce matin, vous nous faites vivre ces récoltes sur RTL et ça se passe en Loire-Atlantique, au domaine Poiron d'Abin, à Château-Thébault. Là où la récolte s'annonce exceptionnelle, hein, visiblement.
Oui, effectivement, ça a commencé ce matin par 17 degrés avec un peu de brume, c'était formidable. Là maintenant, il fait plus de 30 degrés, on va pas tarder à arrêter. Il fait simplement trop chaud pour récolter du raisin de bonne qualité. Et la qualité, vous le disiez, eh bien, cette année qui est exceptionnelle à tout point de vue, eh bien, cette année, Jean-Michel, qui est l'un des deux chefs d'entreprise ici avec votre frère Laurent, vous le disiez, elle va être exceptionnelle.
Bah, écoutez, c'est certain, là, on a dégusté les jus qui ont commencé, qui ont coulé, qui se sont décantés dans la cuve. C'est une merveille. On a le fruité, l'élégance qui s'est installée. Bien évidemment, tout à l'heure, on l'a goûté sorti de pressoir, c'était chouette, mais là, du coup, c'est chouette. Et on va pouvoir envisager de faire une très belle méthode traditionnelle avec une perle très fine dessus, donc sur ce fameux cépage berligou. Mais là, c'est la première slave de cueillette et oui.
Et donc, ça s'annonce très très bien, d'autant que cette année ici, on a été largement épargné par le gel. Donc, il y aura non seulement la qualité, mais aussi la quantité. Donc, tout va bien.
Tout va bien. Merci infiniment pour ce fil rouge, Pierre-Baptiste Vanzini pour RTL. RTL en immersion, c'est dans quelques instants. Et alors là, on va avoir droit à du beurre, beaucoup de beurre, de la farine aussi. Notre journaliste Guillemette Franquet ne s'est pas glissé dans la peau d'un boulanger-pâtissier, non, mais de tourière. C'est encore plus pointu. Elle est désormais incollable sur la pâte feuilletée.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon. RTL en immersion.
Les journalistes de RTL qui testent de nouveaux métiers, c'est le rendez-vous de votre été. Aujourd'hui, nous retrouvons donc Guillemette Franquet qui a choisi de devenir tourière le temps d'une journée. Bonjour Guillemette.
Bonjour.
Alors le tourier, c'est la spécialiste des viennoiseries, brioches et autres pâtes à tarte. Vous êtes allé à l'hôtel-restaurant étoilé Lousteau de Beaumanière au Beau de Provence pour tester vos compétences
en matière de pâte feuilletée, Guillemette.
Oui, je suis dans l'atelier de viennoiserie de l'hôtel.
Alors en fait, c'est un espace qui est complètement dessiné pour créer de la viennoiserie.
Avec la tourière Jade.
Donc on a en fait tout le matériel qu'il faut, un laminoir, des chambres de pousse, des fours adaptés, des frigos adaptés, donc tout pour faire en fait de la bonne viennoiserie maison de A à Z.
Il fait encore nuit, il est 4h30 du matin tout de même. Première étape, on enfile la tenue.
Le chef pâtissier de Lousteau, il vous a prêté une veste, le chef Brandon Dehan, et une casquette pour bien protéger les cheveux et un tablier, comme ça vous serez paré.
La casquette, je ne suis pas super convaincue, mais c'est pratique parce qu'il fait plutôt frais ici, c'est pour protéger le beurre.
On va cuire toute la viennoiserie qui a été préparée hier, sans croissant, sans pain au chocolat et sans brioche. Alors vous prenez les plateaux de brioche et vous les mettez dans votre échelle qui est juste derrière.
Ah, c'est lourd ?
Parfait.
C'est physique.
C'est physique.
Une fois cuites, on les fourre avec une poche à douille sans déborder. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
Vous faites un trou sans aller complètement au fond de la brioche et vous tournez.
Okay.
On fait un beau trou, comme ça on pourra venir les pocher avec du confit de fraise.
Oh là, j'ai mis de... je suis en train de mettre du confit de fraise.
C'est pas évident de pocher et vous pouvez la prendre à la main.
Ouais, je vais la prendre à la main. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le droit de la manger, cette brioche. Là, on sort de la chambre de pousse. Les croissants et pains en chocolat cru, roulés la veille.
Les croissants, ils sont un peu, on dirait des petits coussins presque.
C'est vrai qu'ils sont très mignons, ces croissants.
Hop. Avant la cuisson, on applique une dorure.
C'est quelque chose que les gens ils connaissent peut-être sous forme de pistolet un peu à peinture. C'est de l'œuf et du sirop. Mmh. Alors, vous prenez le pistolet, voilà, restez appuyés. Et...
ouais, j'ai l'impression de jouer au paintball. Et on fait derrière après.
Voilà, c'est ça.
Les croissants, les pains au chocolat et les brioches sont cuites. Il est 7h.
Ah, bien, il y a le jour qui commence à se lever.
Le petit déjeuner est prêt. Il peut être servi dans toutes les chambres de l'hôtel.
Et une fois que le petit déjeuner est servi, on prépare la pâte pour les viennoiseries de demain.
Oui, et ma journée de tourière commence vraiment parce que je vais préparer la pâte et tourer le beurre.
Tourer, c'est donc rajouter du beurre dans de la pâte.
C'est ça, c'est une sorte de technique. On plie la pâte avec du beurre à l'intérieur en faisant ce qu'on appelle des tours, donc des pliures, pour pouvoir avoir ces couches de pâte-beurre.
Et pour préparer la pâte,
on pèse pour la pâte pour les croissants de demain. Pareil numéro 2... 3,7 kg. Donc je verse de l'eau dans la cuve et là le beurre.
Pour tourer, je me tourne vers le laminoir. C'est une grosse machine avec un tapis et un double rouleau central pour étaler la pâte. Et c'est justement ça, un rouleau à pâtisserie mécanique et géant. Alors on commence par poser la pâte sur le tapis.
Vous appuyez sur le bouton là, donc vous allez lever ce côté-là du laminoir, voilà.
D'accord.
Et vous allez laisser la pâte.
Voilà,
voilà. Parfait. C'est assez sensible. Sinon, il y a aussi les pédales si vous préférez.
D'accord, ça c'est pour les nuls les pédales, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Une fois aplati, on rajoute du beurre, on replie, on aplatit, on rajoute encore du beurre.
Ben, en fait, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un tour de main. En tout cas, il y a du beurre.
Il y a du beurre. Il y a 30% de beurre.
Dans un croissant ?
Par rapport au poids de la pâte, je tourne avec 30% de beurre.
C'est prêt. On roule des triangles de pâte pour les croissants, des rectangles pour les pains au chocolat et on réserve pour le lendemain. Tourrier, c'est très proche de boulanger et ça n'est pas un hasard.
Alors moi, j'ai passé un CQP tourrier qui permet de former des pâtissiers et des boulangers au métier de tourrier, qui se spécialise en fait sur la brioche, tout ce qui est viennoiserie, la préparation de tartes, feuilletage aussi.
Une spécialisation qui ne permet pas toujours de gagner mieux sa vie qu'un boulanger. Jade gagne 1 600 € net par mois, mais pour elle, tourer, c'est avant tout une passion.
Alors, tourer ou pas tourer, telle est la question désormais, Guillemette. Est-ce que l'on range le micro pour devenir tourrière ?
Alors oui, hein, beaucoup, même si je vous avoue que j'ai trouvé que c'était étonnamment technique, parfois même sportif, ce métier. C'est pas mal, hein, faire de l'exercice quand on mange tout le temps des croissants. Mais Jade m'a dit que chaque jour, c'était un défi de réussir sa pâte, qu'elle était vivante grâce à la levure. Et c'est vraiment ça qui m'a marquée. Tourier, c'est un métier de précision et j'ai trouvé beaucoup de poésie dans ces feuilletages parfaits.
RTL en immersion de Guillemette Franquet à retrouver évidemment sur notre site et notre appli. RTL, dans un instant, vous avez la parole au 3210. RTL.